8h42 à Paris. On revient dans quelques minutes sur la mort de Souleymane Cissé, réalisateur malien, figure du cinéma africain. On sera avec le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. Mais pour l'heure, c'est le journal des sports. Le football d'abord, Antoine Grenier, et des performances africaines d'envergure en barrage de la Ligue des Champions.
Et particulièrement marocaine avec Ismaël Saïbari, dont le but arrache la prolongation victorieuse du PSV Eindhoven face à la Juventus de Turin. Pendant que le PSG, lui, s'est amusé 7-0 face à Brest, avec au passage une passe décisive d'Achraf Hakimi sur le 5e but parisien. Moins de réussite en revanche pour Serou Guirassy qui rate un pénalty face au Sporting, sans conséquence puisque le Guinéen et Dortmund se qualifient pour les 8e de finale, tout comme le Real Madrid.
Les dames, les éliminatoires de la CAN 2026 se poursuivent ce jeudi.
Avec 6 rencontres, Botswana RDC, Tanzanie, Guinée équatoriale, Gabon, Mali, Bénin, Sierra Leone et Angola, Zimbabwe. Hier, l'Algérie s'est offert un large succès, 5-0 sur le Soudan du Sud et le Niger s'est incliné 2-0 face à la Gambie. Grosse déception à domicile pour la capitaine nigérienne Raina Moussa Hassan.
Il y a le match retour Inch'Allah au Sénégal, donc nous allons essayer vraiment de faire mieux que ce que nous avons fait ici. Parce que, vous savez, le football, là, parfois, là, c'est pas parce que c'est chez nous. Donc, c'est possible aussi qu'on aille là-bas chez eux pour les gagner. Nous, vraiment, on garde toujours l'espoir. Parce que 2-0, là, et ce n'est rien. Comme je vous l'avais dit, donc, on peut toutefois aller là-bas et gagner et ramener la victoire. Donc, vraiment, nous, on est toujours pas découragés. On garde toujours l'espoir. Certes, ça fait mal de perdre ici à domicile, mais on garde toujours l'espoir sur le match retour.
Match retour prévu le 24 février prochain.
On termine avec du cyclisme et le retour en Côte d'Ivoire du nouveau président de la Confédération africaine.
Yao Alakwame, élu dimanche face au président sortant, l'Égyptien Mohamed Azam. Alakwame accueilli ce mercredi, notamment par des cyclistes pleins d'espoir à Abidjan, Molamine Sissavané.
Auréolé de sa couronne de président de la CAQ, Alakwame a eu droit à un accueil triomphal. Enoch Nda, 19 ans et meilleur jeune au dernier tour de Côte d'Ivoire, y était à vélo.
Tout d'abord, c'est une joie pour tout le monde. Ça a félicité d'abord et puis voilà. J'attends franchement du président à l'Aquamu des stages, soit en Afrique du Sud, en Suisse. Plus de compétition, plus de tout.
Le premier acte fort qu'Alakwame compte justement poser pour son début de mandat est la détection et la formation des jeunes.
Un sport mécanique comme le nôtre, qui est le cyclisme, repose encore davantage sur la jeunesse. Une jeunesse qui va participer à des camps de formation tels que le centre d'Afrique du Sud. Les meilleurs pourront aller à Aigle, en Suisse.
Autre axe prioritaire pour Alakwame, le développement du cyclisme féminin.
C'est une activité qui permet aux jeunes dames de montrer qu'elles sont capables de faire comme les hommes, sinon mieux que les hommes. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, c'est 2 dames qui nous ont rapporté 5 médailles dans les différentes compétitions africaines.
Autre jeune dame à fort potentiel, Romande Kouassi, actuelle championne de Côte d'Ivoire.
Mon souhait est que, avec ce poste, le président puisse avoir plus de regard sur la jeune féminine. Parce que la jeune féminine est un peu trop mise à l'écart.
Une ambition phare du nouveau président de la CAQ est la tenue des compétitions régionales pour permettre aux athlètes africains d'avoir plus de parcours dans les jambes. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et premier grand tour au programme du nouveau président, le Tour du Rwanda qui s'élance ce dimanche.
Le journal des sports signé Antoine Grenier.
RFI Matin.
7h45 en temps universel, on revient sur la mort d'une figure du cinéma africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint hier à 84 ans à Bamako. Une trentaine de films à son actif, premier réalisateur d'Afrique subsaharienne à avoir un prix au Festival de Cannes. Le prix du jury, c'était en 1987 pour son film Yélène. Bonjour Abderrahmane Sissako.
Bonjour.
Cinéaste et réalisateur mauritanien, on vous doit notamment le film Timbuktu. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Vous êtes, on l'imagine, très attristé par la mort de Souleymane Cissé.
Oui, c'est tout le cinéma africain et au-delà qui est vraiment attristé par la disparition brutale. Hein. C'est brutal. Et à la veille d'un événement aussi important que le FESPACO et où on était tous fiers que Souleymane allait porterait la présidence de ce jury. Et voilà, qu'il nous quitte comme ça, je suis bouleversé parce que il est pour moi, et c'est lui qui a incarné à lui tout seul le patrimoine du cinéma mondial en tant qu'Africain. Ça, c'est une réalité. Personne n'a fait autant que lui. Et le cinéma politique et politique, ça a commencé par Souleymane.
Justement, comment a-t-il marqué le cinéma africain?
Mais il a marqué par par ces films qui sont très différents, mais en même temps qui sont tous véritablement engagés, mais engagés pas dans, seulement dans un discours, mais dans une forme esthétique aussi. Hein. C'est très très beau tout ce que Suleiman a fait. Et Desmousseaux, la fille, la jeune fille, est un film courageux de l'époque, et on sait que Suleiman a été incarcéré à cause de ça. Donc c'est un cinéaste courageux qui a touché à chaque fois ce qui fait peur, souvent en politique aussi. Barra, c'est pareil. Et donc, je dirais, sa filmographie est exceptionnelle. Et lui aussi, c'est pour moi, un cinéaste généreux, dans le sens par rapport aux autres cinéastes. Ce qui est rare aussi, hein. Mais il avait cette gentillesse par rapport à tout ce qui se faisait, très très positif. Et ça, le perde, bien évidemment, matrice profondément.
Abderrahmane Cissako, je voudrais qu'on écoute à présent ces propos de Suleiman Cissé, justement sur le cinéma.
C'est important parce que l'Afrique ne peut pas se transporter en France, en Europe ou aux États-Unis. L'Afrique se transporte par les images. Et ces images, des millions de personnes peuvent le voir et connaître réellement l'Afrique. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, on ne comprendra jamais le continent. Ça, c'est ma vision des choses.
Le cinéma est la seule manière pour l'Afrique de se transporter dans le monde. Avez-vous la même vision que Suleiman Cissé là-dessus?
Oui, tout à fait. Hein. Il a souvent dit, c'est important que nous nous racontons nous-mêmes. Et qu'on parle souvent de nous, mais il faut que nous nous racontons dans ce qu'on a de fort, dans ce qu'on a de faible, dans nos valeurs, dans les problématiques, et c'est ce qui apparaît dans le cinéma de Suleiman. Et là, son cinéma a une beauté esthétique avec Hélène qui a marqué. Voilà, il a eu le prix du jury, mais c'était une palme pour moi, Hélène. Mais peu importe, comme il le disait lui-même, on ne vient pas à Cannes pour gagner un prix, on vient pour honorer le cinéma, pour faire partie de la famille du cinéma.
Et pour vous, Abderrahmane Cissako, vous avez une génération d'écart avec Suleiman Cissé. Est-ce qu'il vous a inspiré dans vos films? Comment?
Oui, vous savez, l'inspiration est quelque chose souvent de très caché, de profond, et parfois inconsciente. Il m'a inspiré parce qu'il a été cinéaste bien avant moi, donc c'est possible. C'est ça aussi l'inspiration, que Suleiman a existé en tant que cinéaste, a fait des films, j'entendais parler, même si je ne les voyais pas. Parce que l'accès au cinéma, il n'était pas facile. Donc ça, c'est déjà une inspiration. Et puis, très tôt, j'ai commencé à rencontrer Suleiman à Moscou, où j'étais étudiant. Lui, il venait au Festival de Moscou avec ses films. Donc, pour moi, c'était vraiment le grand frère et qui était heureux et de savoir que, voilà, qu'il y a des jeunes qui arrivent. On a fait la même école de cinéma, de l'UGK. Et donc, on a, lui et moi, cette connivence, je dirais, hein, d'avoir fait la même école, d'avoir une exigence dans la création artistique. Et cette école nous a formés, mais quand l'école forme, c'est avant tout parce qu'il y a quelque chose qui est là, il y a une base qui est là, et Suleiman a cette base voilà, de quelqu'un de très très sensible, il était très sensible.
Merci à Abderrahmane Cissako, cinéaste et réalisateur mauritanien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la carrière de Suleiman Cissé, le réalisateur malien qui s'est éteint hier à 84 ans. Vous l'avez rappelé, il devait présider le jury fiction long métrage pour la 29e édition du FESPACO, un festival qu'il connaissait très bien et auquel il participait souvent. Le FESPACO qui s'ouvre après-demain, dans deux jours à Ouagadougou. RFI, 7h51 en temps universel. On termine aujourd'hui notre série de reportages dans le nord du Bénin, zone confrontée à la menace terroriste. Samedi, une position de l'armée a été la cible d'attaque dans le parc naturel du W. Le mois dernier, plus de 30 soldats ont été tués dans la zone dite du point triple à la frontière avec le Niger et le Burkina. Tout près du Burkina Faso, justement, la commune de Banyekoara est aussi un lieu de refuge pour les Burkinabés qui fuient les violences dans leur pays. 17 000 y seraient réfugiés selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Magali Lagrange s'est rendue sur place. Reportage.
Sa béquille est posée à côté de lui, des boîtes de médicaments au pied du lit. Il y a 3 ans, avec sa femme et ses 7 enfants, cet homme est monté dans un camion pour fuir les violences dans la commune de la région de l'Est du Burkina Faso qu'il l'a vu naître en 1958.
On est quitté là-bas, on est venu au Bénin ici. On est très 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 content parce qu'ils nous aident, ils nous donnent l'argent, on achète le manger. Je suis malade, mais c'est dedans que je prends pour aller payer le produit. Bon, mon enfant, il y a d'autres qui sont à Parakou, il y a d'autres qui sont à Kandi. Comme on n'a pas de champ, il est obligé d'aller travailler pour avoir quoi manger. Je ne sais pas comment je vais remercier au Bénin.
Plusieurs organisations comme la Croix-Rouge et l'UNICEF portent assistance aux réfugiés qui essaient aussi d'avoir des activités pour gagner un peu d'argent.
Il y a tassé d'abord. Les pédales sont ici.
Cette mère de famille, foulard noué sur la tête, manie le métier à tisser installé chez elle, dans la cour quelques animaux. Le souvenir des événements qui l'ont poussé à fuir sa commune de l'Est du Burkina Faso avec 3 de ses enfants est encore vif. C'était il y a 2 ans.
Ça chauffait là-bas. Ça commençait le jour de marché et les gens couraient, disent « Ah, ça va pas, ça va pas ». Le militaire vient, des problèmes. Et si on va aussi, le terroriste aussi vient, c'est des problèmes. On ne savait pas même comment faire. Donc les autres ont commencé à fuir un peu, un peu, un peu. Nous-mêmes, on a commencé à « Ça là, ça va pas hein. ». Parce que de ce qu'on trouvait à manger, il n'y a pas. Il faut aller chercher le bois, il n'y a pas. Il y avait les gens qui ont perdu leur mari, leurs enfants. On voit tout le monde partout, on pleure. Donc Dieu merci, j'ai pris mes enfants. Et on est venu à Banyekoara ici.
À Banyekoara, elle et ses enfants se portent bien. Mais les récents événements sécuritaires dans le nord du Bénin ne la rassurent pas.
Banyekoara aussi, à 21h23, c'est pas bon. Vers Pointe-Truc là-bas. On a vu ça dans le portable. Que les gens là sont venus là-bas pour tuer nos militaires encore, qui nous sauvent. Ça nous a donné peur aussi. Nous, on a quitté là-bas pour venir ici. Si ça commençait aussi, c'est pas bon. Seulement, on va prier Dieu pour Bénin aussi.
Magali Lagrange, de retour de Banyekoara, RFI.
Cette série de 4 reportages dans le nord du Bénin, signé Magali Lagrange, est à retrouver sur notre site www.rfi.fr, à réécouter également sur notre application Pure Radio.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Le conflit dans l'est de la RDC s'est invité au sommet annuel Mining Indaba en Afrique du Sud, sommet des acteurs miniers. Puisque les minerais de la région aiguisent les appétits, un groupe d'experts de l'ONU a démontré que la mainmise sur ces richesses, coltan, or, étain, permet de financer la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. La chronique Afrique Économie, signée Claire Bargelès.
Comme chaque année, la délégation congolaise était bien représentée au Cap et le ministre des Mines, présent en personne, ainsi que la première ministre dans un message vidéo, ont pu dénoncer ce qu'ils qualifient de pillage des ressources à l'Est. Des accusations que rejette le président Paul Kagame, mais qui ont été bien documentées par les experts de l'ONU ainsi que par l'ONG Global Witness pour laquelle travaille Emily Stewart.
Il y a toujours eu un marché international pour ces minerais. Toutes les personnes qui ont successivement eu le pouvoir dans la région ont contribué à ce problème. Ce n'est donc pas un phénomène qui aurait émergé avec le M23. Mais la façon dont ces minerais sont de plus en plus demandés a contribué à augmenter la présence de groupes comme le M23 dans la région. Nous pensons que seul 10% du coltan certifié rwandais provient vraiment du Rwanda. Le reste vient de RDC. Il passe clandestinement et est ensuite certifié comme s'il venait d'une mine rwandaise.
Le trafic, surtout centré autour de la mine de Rubaya, échappe donc aux outils de traçabilité mis en place jusqu'à présent. Une administration parallèle permet de vendre ce coltan qui esquive les taxes congolaises étatiques et se retrouve dans les téléphones et les ordinateurs du monde entier. Adam Matthews supervise les placements du fonds de pension de l'Église d'Angleterre et pour lui, il est aussi de la responsabilité des investisseurs de se pencher sur ce circuit.
À mon avis, en tant qu'investisseur, il serait complètement naïf de penser que nous ne sommes pas exposés à des industries et des secteurs qui utilisent des minerais de différentes zones de guerre dans le monde. Ici, on observe l'escalade d'un conflit ouvert à Goma et le fait que certains minerais de la région ont pu rejoindre les chaînes d'approvisionnement mondiales. On doit tous se pencher là-dessus.
La crise à l'Est pourrait aussi avoir un impact sur l'attrait des investisseurs pour le secteur minier du pays, alors que la RDC avait déployé beaucoup d'efforts ces dernières années pour améliorer le climat des affaires. Henri Wasney est le directeur général de la Sofibank.
Dire que ça n'a pas d'impact sur le moral des gens à Kinshasa, sur le moral des investisseurs, que ce n'est pas un frein aujourd'hui à l'ouverture de la RDC Congo, serait faux. Certes, l'Est du Congo, c'est loin du Katanga, mais c'est le même pays et je pense que c'est extrêmement dommageable aujourd'hui pour l'image de la RDC Congo.
Les parlementaires européens ont depuis voté en faveur d'une résolution pour réclamer que l'Union européenne suspende l'accord sur les minerais signé l'année dernière avec le Rwanda. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Et la chronique Afrique Économie à retrouver sur notre site rfi.fr. Ainsi s'achève RFI Matin, 3 heures d'information qui est réalisée par Christophe Pernet. Merci à lui. Dans quelques minutes, c'est le retour de l'actualité internationale avec un nouveau journal de Pierre Boudias. Ce sera suivi ensuite d'Appel sur l'actualité. Bonjour Juan Gomez.
Bonjour Marion Cazeneuve. Bonjour à toutes et à tous.
Et on parlera de la reconfiguration du dispositif français en Afrique.
Oui, après avoir été expulsé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et après s'être retiré du Tchad le mois dernier, la France restitue ce matin la base militaire de Port-Boué aux forces armées ivoiriennes. Pas question pour autant de rompre la coopération militaire entre Paris et Abidjan. Prochain retrait annoncé, le Sénégal. Alors que vous inspire l'évolution du dispositif militaire français sur le continent africain? Appelez-nous, vos réactions évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 13.70. Marion, bonne journée.
Bonne journée, Juan.
Dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Demain,
enfants et écrans, quelles limites fixer?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Les crises géopolitiques, économiques, écologiques et sociales que nous traversons nous angoissent et nous secouent. Pourtant, nous devons réagir. Alors, quel sens donner à sa vie dans un monde bouleversé? Rassurez-vous, nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? Jean-François Cadet.
Pourquoi entend-on plus les anciens otages israéliens ou leurs proches que les anciens prisonniers palestiniens? 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, comment les reporters de RFI travaillent-ils? Et le Sahara occidental? Rachida Dati parle de province du Sud. RFI ne reprend pas cette expression. Pourquoi? On vous explique.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça? Tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.